Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Triste jour, malheur étrange, étrangement survenu, ou bien peste prévenue à temps. Dans beaucoup de bruit pour rien, on fait, semble-t-il, un peu trop vite confiance aux calomniateurs. Mais sans cela, évidemment, pas de tragicomédie, pas de dangereuses affaires de paillardise, de fausses paillardises. Beaucoup de bruit pour rien, quoi qu'il en soit, même dans cette version abrégée, très résumée, la jeune Héro, morte outragée, ressuscitera bien cette nuit. Comme elle avait ressuscité le 27 avril 1950 sur la chaîne nationale lors de la première diffusion de ce digest de pièces shakespeariennes.
Veuillez écouter maintenant Beaucoup de bruit pour rien.
Beaucoup de bruit pour rien.
De bruit pour rien, joué en 1599, fut vraisemblablement écrit en 1598. La première édition porte le millésime 1600. Beaucoup de bruit est une tragicomédie. L'élément dramatique en est le ressort, la conclusion en est heureuse. Avec Le Marchand de Venise, La Nuit des Rois et Comme il vous plaira, Beaucoup de bruit pour rien se situe au plein de la période de l'épanouissement du génie shakespearien. L'action se déroule à Messine, où le prince d'Aragon vient d'arriver, accompagné de son favori Claudio et de son demi-frère Don Juan. À peine débarqué, Claudio tombe amoureux d'Héro, fille de Leonato, gouverneur de Messine. Il la demande en mariage et est aussitôt agréé. Mais Don Juan, poussé par la jalousie qu'il voue à Claudio et par la passion du mal, ourdit un complot dont Héro sortira déshonoré.
Ainsi, le comte Claudio épouse la fille de Leonato.
Oui, monseigneur, mais je peux empêcher cela.
Toute barrière, tout obstacle, tout empêchement me contentera. Je le déteste. Tout ce qui pourra contrarier ses désirs satisfera les miens. Comment rendre ce mariage impossible?
Pas de façon honnête, monseigneur, mais j'agirai secrètement. On ne soupçonnera pas la machination.
Explique-toi.
Je crois avoir déjà dit à monseigneur combien j'étais en faveur auprès de Marguerite, la suivante d'Héro.
Je m'en souviens.
Je puis à quelque heure de la nuit lui demander de se mettre à la fenêtre de sa maîtresse.
Comment cela peut-il empêcher ce mariage?
Ce sera à vous d'utiliser au mieux l'occasion. Allez chez le prince, votre frère, et dites-lui qu'il s'est déshonoré en mariant Claudio à une drôlesse.
Quelle preuve lui en fournir?
Une preuve suffisante pour tromper le prince, vexer Claudio, perdre Héro et tuer Leonato. Que demandez-vous de mieux?
Pour les dépiter, je me sens capable de tout.
Alors trouvez-moi un instant pour prendre à part Don Pedro et le comte Claudio. Dites-leur que vous savez qu'Héro m'aime, que cédant à votre affection pour le prince et Claudio, vous n'avez pas hésité à leur avouer la trahison d'Héro. S'ils veulent des preuves, offrez-leur de venir me voir à la fenêtre de la chambre d'Héro. J'appellerai Marguerite Héro et Marguerite m'appellera Boraccio. Amenez-les la nuit qui doit précéder le mariage. Pendant ce temps, je préparerai mon affaire. Héro sera absente, sa déloyauté semblera si évidente qu'elle paraîtra une certitude.
Quelle que soit la conséquence de cette machination, je l'exécuterai. Mène l'affaire à bien, il y aura 1000 ducats pour toi.
Vous m'accuserez. Pour le reste, laissez-moi faire.
Je vais me renseigner sur la date du mariage.
Salle du palais de Messine.
Son Excellence, votre frère, demande à être reçu par votre honneur.
Qu'il entre.
Dieu vous garde, mon frère, et vous aussi, comte Claudio.
Dieu vous garde, mon frère.
Je désirerais vous parler.
En particulier ?
Le comte Claudio peut entendre. Ce que j'ai à dire le concerne.
De quoi s'agit-il ?
Votre seigneurie ne doit-elle pas se marier demain ?
Demain ? Si vous connaissez quelque empêchement, je vous prie de me le dire.
Vous croyez que je ne vous aime pas, comte Claudio ? L'avenir vous prouvera le contraire. Vous aurez meilleure opinion de moi quand vous connaîtrez ce que je viens vous révéler. Mon frère a pour vous beaucoup d'affection, et par amitié, il s'est employé à votre mariage. Il ne pouvait plus mal perdre son temps.
Que se passe-t-il ?
Je vais vous l'apprendre. En deux mots, la dame est déloyale.
Héros ?
Héros, la fille de Leonato, votre héros, l'héros de tout le monde.
Héros déloyal ?
L'expression est trop douce pour dire sa trahison. Elle est plus que déloyale. Vous ne vous étonnerez plus quand vous saurez tout. Venez cette nuit avec moi, vous verrez escalader la fenêtre de sa chambre, la nuit qui doit précéder ses noces.
Est-ce possible ?
Si vous voulez me suivre, je vous en montrerai suffisamment. Quand vous aurez vu et entendu, vous agirez comme bon vous semblera.
Si cette nuit, je découvre quelque motif qui me défende de l'épouser, c'est à l'église même où nous devions nous marier demain que je lui ferai honte.
Moi qui t'ai engagé à ce mariage, je me joindrai à toi pour la confondre.
Je n'en dirai pas davantage, avant que vous soyez les témoins de ce que j'avance. Gardez votre sang-froid jusqu'à minuit. L'événement décidera.
Oh, triste jour. Malheur étrange, étrangement survenu.
Peste prévenue à temps. C'est ainsi que vous parlerez quand vous aurez vu la suite.
Boracchio, le complice de Don Juan, a la langue trop longue. Une nuit, il rencontre dans la rue un personnage aussi peu recommandable qu'il l'est lui-même et il lui confie le secret de la machination. Mais des policiers cachés dans l'ombre d'un porche surprennent la confidence.
Hé, hey, Conrad !
Chut, ne bougeons pas.
Conrad ! Ici, ami, je te touche du coude.
Ah oui,
voilà. Et maintenant, dis-moi ce que tu as à dire.
Alors, tiens toi sur ce porche, car il bruit.
De Don Juan, 10 000 ducats. Est-il possible qu'une scélératesse coûte si cher?
Lorsque les scélérats riches ont besoin des scélérats pauvres, ceux-ci peuvent faire leur prix.
Je connais ce bonhomme depuis 7 ans. C'est un voleur, et pourtant, il va et vient partout comme un gentilhomme. Je me rappelle son nom.
N'entends-tu pas quelqu'un? Non, c'était la girouette de la maison.
Sache que cette nuit, j'ai fait la cour à Marguerite, la dame de compagnie de Madame Héro, en lui donnant le nom d'Héro. Elle se penche vers moi, de la fenêtre de sa maîtresse, me souhaite 1000 fois bonne nuit. Mais je raconte mal l'histoire. Je devrais dire d'abord que le prince et Claudio, postés par mon maître Don Juan, ont en sa compagnie contemplé du jardin cette aimable entrevue.
Et ils ont cru que Marguerite était Héro.
Le prince et Claudio l'ont cru, mais mon maître savait que c'était Marguerite. Grâce aux serments échangés qui les ont trompés, grâce à l'obscurité de la nuit qui les a abusés, grâce à ma scélératesse qui a confirmé toutes les calomnies de Don Juan, Claudio est parti furieux, jurant qu'il irait la rejoindre au temple demain. Mais que devant toute l'assemblée, il lui ferait honte de ce qu'il avait vu ce soir et la renverrait chez elle, son mari.
Au nom du prince, nous vous arrêtons. Rappelez le chef constable. Nous avons découvert la plus dangereuse affaire de paillardise dont on n'ait jamais entendu parler dans l'État depuis longtemps.
Messieurs,
ne parlez pas.
Nous vous arrêtons. Venez avec nous.
Ah, voilà bien avoir été ramassé par cet imbécile.
Allez, venez.
Boracchio est conduit devant le chef de la police, à qui il renouvelle ses déclarations. Le chef de la police se rend aussitôt au palais pour informer le prince, mais celui-ci, préoccupé par d'urgentes affaires, renvoie le fonctionnaire, lui demandant de remettre son rapport à plus tard. L'odieuse machination de Don Juan peut donc se développer. Et dans la basilique de Messine, devant un moine, Claudio et Héro sont face à face.
Allons, frère François, soyez prêts. Expédiez les formes essentielles du mariage, vous exposerez ensuite les devoirs particuliers des époux.
Vous venez ici, monseigneur Claudio, pour contracter mariage avec cette dame.
Non.
Mais madame, vous venez ici pour vous marier avec ce comte.
Oui.
Si quelqu'un connaît quelque empêchement secret à votre union, je le somme sur le salut de son âme de le dire.
En connaissez-vous quelqu'un, héros?
Et aucun, monseigneur.
En connaissez-vous quelqu'un, comte?
Réponds pour lui. Aucun. Mon père, voulez-vous d'une âme libre et sans contrainte me donner à cette jeune fille, votre fille, en mariage?
Aussi librement, mon fils, que Dieu me l'a donné.
Et que vous donnerai-je en retour dont la valeur puisse balancer ce don précieux?
Rien. À moins que vous me la rendiez elle-même.
Eh bien, Leonato, reprenez-la. Hein? Donnez pas à votre amie ce fruit pourri, elle n'est que le semblant en honneur. Hein? Voyez comme elle rougit d'une façon virginale. Oh, de quelle apparence la corruption peut se revêtir? Son sang ne lui monte-t-il pas aux joues, comme pour témoigner de la candeur de sa vertu? Vous tous qui la voyez, n'affirmeriez-vous pas sur ses apparences qu'elle est une pure jeune fille? Elle ne l'est pas!
Oh!
Sa rougeur vient de sa culpabilité, et non de sa pudeur.
Que voulez-vous dire, mon seigneur?
Que je ne veux pas me marier! Que je ne veux pas unir mon âme à une catin!
Mon cher seigneur, si vous l'avez soumise à vos empressements, si vous avez vaincu sa résistance, triomphé de sa jeunesse...
Je sais ce que vous voulez dire. Si je l'avais connue, ça aurait été déjà comme un mari, et cette faute anticipée serait excusable. Non, Leonato, je ne l'ai jamais tenté. Je lui ai toujours montré une humble sincérité et un respectueux amour.
Jamais tenu avec vous une autre conduite?
Pas par l'apparence, te dis-je. Oui, vous semblez à la vérité pareil à Diane au sein de son astre, chaste comme le bourgeon de la fleur. Mais il y a dans votre sang plus de dépravation que dans celui de Vénus ou dans celui des animaux.
Oh enfin, monseigneur, est-il malade pour tenir des propos aussi grossiers?
Aimable prince, pourquoi ne parlez-vous pas?
Pourquoi parlerai-je? Je me sens déshonoré, moi qui ai tout fait pour unir mon cher ami à une prostituée.
Ces paroles sont-elles réelles? Ou bien est-ce que je rêve?
Monsieur, les choses qu'elles expriment sont vraies.
Vraies?
Leonato, ne suis-je pas ici présent? N'est-ce pas là le prince? N'est-ce pas là le frère du prince? Ce visage n'est-il pas celui de héros? Nos yeux ne sont-ils pas nôtres?
Que signifie cela, mon seigneur?
Laissez-moi adresser une seule question à votre fille. Et par votre pouvoir sur elle, ordonnez-lui d'y répondre.
Je te l'ordonne, héros.
Mon Dieu, défendez-moi. Comment appelez-vous ce genre d'interrogatoire?
L'obligation de répondre au véritable nom qui vous est dû. Quel est cet homme qui causait avec vous la nuit passée à votre fenêtre? Répondez à cette question.
Je n'ai parlé à aucun homme cette nuit, monseigneur.
N'avez-vous donc aucune pudeur? Leonato, sur mon honneur, moi, mon frère et le comte ici présent, nous l'avons vu et entendu la nuit dernière causer à la fenêtre de sa chambre avec un homme. Cet homme, en libertin qu'il est, s'est vanté des rendez-vous qu'il avait eu 1000 fois avec elle en secret.
Ce sont là des choses qu'on ne peut pas nommer, monseigneur. Il n'y a pas dans le langage humain de mots assez décents pour les exprimer sans faire injure à la pudeur.
Oh, héros. Adieu, infâme et bel héros. Adieu, impureté, impiété. C'en est fini pour moi désormais.
N'est-il personne ici qui me poignardera?
Eh bien, Claudine, vous chancelez.
Alors, allons, partons. Ces secrets révélés, mais tous.
Comment va la dame?
Morte, je pense. Au secours, mon oncle, héros, et bien héros, mon oncle, frère.
La mort est le meilleur voile à sa honte qu'elle puisse souhaiter.
Eh bien, cousine héros.
Alors, calmez-vous, madame.
Est-ce que tu oses rouvrir les yeux? Par hasard?
Et pourquoi ne les rouvrirait-elle pas?
Parce que tout sur la terre crie honte sur elle. Peut-elle nier l'opprobre imprimé sur son front? Meurs, héros. Ne rouvre pas les yeux. Si je croyais que tu ne dusses pas mourir, si je pensais que ta vie fut plus puissante que ta honte, j'aiderais tes remords. Je te tuerais. Et moi, qui gémissais de n'avoir qu'un enfant, pourquoi ai-je une fille? Pourquoi a-t-elle jamais paru aimable à mes yeux? Que n'ai-je plutôt ramassé l'enfant d'une mendiante à ma porte? Ma fille que j'aimais, ma fille que je vantais, ma fille dont j'étais fier, ma fille qui était moi au point que je ne m'appartenais plus qu'en elle, ma fille est tombée dans un tel abîme de noirceur que la mer n'aurait pas assez de ses flots pour la laver, pas assez de son sel pour effacer son infamie.
Sur mon âme, ma cousine a été calomniée.
Madame, étiez-vous avec elle la nuit dernière?
Non, mais jusqu'à cette dernière nuit, j'ai partagé sa chambre pendant un an.
Tout se confirme donc. Pourquoi les deux princes mentiraient-ils? Pourquoi Claudio mentirait-il? Qu'elle meure.
J'ai gardé longtemps le silence pour mieux étudier la dame.
Ma conviction est faite. Elle est victime d'une douloureuse erreur.
Tu te trompes, moine. La pudeur qui lui reste, elle en use à ne pas aggraver sa damnation par le parjure. Elle ne nie pas. Alors, pourquoi chercher une excuse pour démentir ce qui apparaît dans toute sa nudité?
Quel est l'homme?
Demandez-le à mes accusateurs. Moi, je ne le connais pas. Si je mens, que mes péchés soient sans miséricorde. Mon père, prouvez qu'un homme s'est entretenu avec moi à des heures indues. Prouvez que la nuit dernière, j'ai échangé une parole avec une créature quelconque. Et je vous autorise à me répudier, à me torturer jusqu'à la mort.
Les princes ont commis une erreur.
Deux d'entre eux sont l'honneur en personne. Si leur bonne foi a été surprise, il faudra accuser d'enjouement le bâtard. Son esprit ne recule devant aucune vilenie.
Ils ont dit la vérité sur ton compte. Mes mains te mettront en pièces. Ils t'ont calomnié, ma fille. Le plus fier d'entre eux entendra parler de moi.
Laissez-moi vous conseiller. Les princes ont laissé votre fille pour morte. Mettez-la dans quelque endroit secret. Et faites courir le bruit qu'elle a succombé. Déployez tous les apparats du deuil, tous les rites des funérailles.
Et à quoi cela peut-il servir?
Si l'expérience réussit, vous verrez la calomnie se changer en remords. Mais j'en attends encore de plus heureuses conséquences. Héro étant morte à l'instant où on l'accusait, on en viendra vite à la regretter, à la prendre en pitié, à l'excuser. C'est ce qui arrivera à Claudio. En apprenant qu'elle est morte victime de ses injures, son souvenir revivra dans son imagination et le regret naîtra de l'avoir accusé. Crut-il encore au bien fondé de son accusation? Agissez de la sorte, croyez-moi. Et puis, quand bien même le but ne serait pas atteint, la mort de la jeune dame apaisera le scandale provoqué par son infamie. Et si par hasard notre espérance est trompée, vous aurez toujours la ressource de la consacrer à la vie religieuse. Loin des yeux, loin des esprits, loin des injures.
Seigneur Lianotto, écoutez le conseil de frère François. Pour moi, je m'engage sur l'honneur à m'employer secrètement et loyalement à ce plan.
Dans ma douleur, la plus petite aide peut être le salut.
Puisque vous consentez, à la besogne, à mots étranges, remèdes étranges. Venez, madame.
Mon père.
Il se peut que ce jour qui devait être celui de vos noces ne soit que remis. Patience, résignez-vous.
Mais la vérité éclate.
Avancez, monsieur. Si la justice ne veut pas venir à bout de vous, c'est que jamais elle ne pèsera plus qu'une bille.
Quoi? Deux serviteurs de mon frère enchaînés? Et Boraccio est l'un d'eux?
Voyons leur crime, monseigneur.
Quel forfait ces hommes ont-ils commis?
Ils ont parlé contre la vérité. Ce sont des calomniateurs. Ils ont outragé une dame.
Oh!
Ce sont des coquins et des menteurs.
Je te demande ce qu'ils ont fait. Quel est leur crime? Pourquoi ils sont en prison? Et ce que tu leur mets à charge?
Prince, c'est moi qui répondrai. Écoutez-moi et après le comte me tuera s'il le veut. Ces policiers m'ont entendu confesser comment votre frère, Don Juan, m'avait commandé d'outrager la dame Héro. Oh. Comment on vous a conduit dans le jardin afin que vous nous surpreniez quand je courtisais Marguerite et qu'avait pris les vêtements d'Héro? Comment vous l'avez déshonoré dans l'église au moment de l'épouser?
Oh.
Ils connaissent ma mauvaise action. Mauvaise action que je demande à payer de ma vie. Héro est morte de mon mensonge, qui fut aussi celui de mon maître. Je ne désire rien d'autre que le châtiment dû au misérable que je suis.
Ces paroles sont comme un fer rouge qui m'entrerait dans la chair.
En les entendant, je crois boire un poison.
C'est mon frère qui t'a commandé cela?
Il m'a payé largement.
Mon frère n'est bon qu'à trahir et à s'enfuir après sa trahison.
Pauvre Héro, maintenant je revois ton image, aussi pure que le premier jour où je t'aimais.
Voici le seigneur Leonato.
Où est le misérable?
Montrez-le-moi. Le qu'est-ce de ces deux hommes?
Regardez-moi, monseigneur.
Ainsi, c'est toi qui as tué une innocente enfant.
Moi seul.
Non, coquin. Tu te flattes. Il y a ici deux gentilshommes. Le troisième, sans honneur, s'est enfui. Qui ont trempé dans l'affaire. Prince, je vous remercie de la mort de ma fille. Vous inscrirez cette action parmi vos exploits.
Seigneur Leonato, choisissez votre vengeance. Imposez-moi le châtiment qui vous convient.
Moi aussi, sur mon âme, je suis prêt à me courber sous la peine qu'il m'imposera.
Je ne peux pas vous ordonner de commander à ma fille de revivre. Mais je vous ordonne de déclarer publiquement au peuple de Messine qu'elle est morte innocente. Et cela ce soir même. Demain matin, vous viendrez chez moi. Seigneur Claudio, vous ne pouvez plus être mon gendre. Vous deviendrez mon neveu.
Quoi ?
Mon frère a une fille qui est mon héritière. Vous lui donnerez le titre d'épouse que vous auriez donné à sa cousine. Et je renoncerai à me venger.
Noble seigneur, tant de bonté m'arrache des larmes. J'accepte votre offre.
Demain, je vous attends chez moi.
Ne vous avais-je pas dit qu'elle était innocente?
Et innocents aussi, le prince et Claudio, qui l'accusaient.
Je me réjouis, mon frère, que tout finisse aussi bien.
Ma fille, et vous toutes, mesdames, retirez-vous dans une chambre.
Ah oui.
Je vous enverrai chercher. Ayez soin de mettre vos masques. Le prince et Claudio vont me rendre visite. Vous savez votre rôle, mon frère.
Mais...
Vous êtes le père de ma fille et vous la donnez à Claudio.
Voici venir le prince et le jeune seigneur.
Bonjour, monseigneur. Bonjour, Claudio.
Nous vous attendions. Claudio, êtes-vous toujours décidé à épouser la fille de mon frère?
Je suis venu pour tenir ma promesse.
Faites-la entrer, mon frère. Le moine est prêt pour la cérémonie.
Laquelle est la dame, s'il vous plaît?
Celle-ci. Je vous la donne.
Madame de grâce, laissez-moi voir votre visage.
Pas avant d'avoir, devant ce moine, juré de l'épouser.
Madame, donnez-moi votre main. Je suis votre époux. Maintenant, démasquez-vous.
Une autre héros.
Oui, héros morte ou trajet, revit aujourd'hui pour vous.
Héros qui fut morte.
Elle était morte, monseigneur, tout le temps que vécut son déshonneur.
Oui, je vous expliquerai cette énigme. En attendant, allons à la chapelle.
Allons.
Beaucoup de bruit pour rien. D'entendre beaucoup de bruit pour rien. Avec la distribution suivante, Claudio André Falcon, Leonato Louis Seigné, Don Juan Guy Rapp, Don Pedro André Certes, Frère François François Libert, Boracchio Edmond Beauchamp, le premier garde Henri Aldebert, Conrad Roger Bontemps, Dogberry Vital. Moni Dalmès était héros et Nicole Moret Béatrice. Musique empruntée à Serge Prokofiev.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 27 avril 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.